Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Impossible de ne pas remarquer que dans les rayons des supermarchés, les plats préparés sont de plus en plus nombreux, que ce soit des plats surgelés, des plats sous vide ou en conserve qu'il suffit de réchauffer à la poêle, au four ou au micro-ondes pendant quelques minutes et le tour est joué. Mais en fait, que contiennent ces préparations ? Ces plats à préparer sont-ils bons pour la santé ? Que contiennent-ils ? Peut-on avoir confiance sur les messages inscrits sur les emballages ? Peut-on en consommer de temps à autre ou très occasionnellement ? On en parle ce matin avec nos invités. On parle de ces plats préparés, cuisinés et on parle d'alimentation transformée ou ultra transformée avec nos invités. Stéphane Besançon qui est avec nous au téléphone, toujours en direct du Mali. Merci de nous rejoindre Stéphane Besançon. Vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Vous êtes à Bamako. Et avec nous sur le plateau de la radio africaine, Pauline Ducrot, merci d'être avec nous. Pauline, vous êtes chargée de mission unité alimentaire et activité physique à Santé publique France. Bonjour. Alors, merci de nous rejoindre. Alors, les aliments ultra transformés favoriseraient le cancer. C'est ce qui ressort d'une étude publiée en février dernier qui suggère qu'une association entre la consommation d'aliments ultra transformés et le sur-risque de développer un cancer. Alors, au total, ce sont 104 980 participants qui ont été suivis pendant 8 ans. Et parmi ces participants, 2228 cas de cancer ont été diagnostiqués et validés. C'est une augmentation donc de 10% de la proportion d'aliments ultra transformés dans le régime alimentaire. C'est révélé être associé à une augmentation de plus de 10% des risques de développer un cancer au global et un cancer du sein en particulier. Alors je pense que vous êtes bien au fait de cette étude, Stéphane Besançon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot pour commencer ?
C'est une étude qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de participants, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui revient maintenant de manière depuis 5, 6, 7 ans. Le nombre d'études qui sont concluantes pour dire que la consommation d'aliments ultra transformés a plusieurs impacts santé. Là, c'est une étude sur le cancer. Mais on sait le poids aujourd'hui de l'alimentation ultra transformée sur toutes les maladies métaboliques, en fait. C'est-à-dire le surpoids, l'obésité, oui. Le diabète, les pathologies cardiovasculaires, les bilans lipidiques. Donc, c'est quelque chose, c'est une pierre, j'allais dire, en plus d'un édifice qui est maintenant plus que construit, où on sait très, très clairement que la typologie de ces aliments est un vrai problème aujourd'hui. Ils sont surconsommés ou consommés en grande quantité pour notre santé de manière au sens large. C'est pas que le cancer. Il faut bien être clair aussi que c'est les cancers à facteur de risque liés à l'alimentation. Hein. C'est pas toutes sortes de cancers, c'est vraiment cela, puisque il y a un lien direct dans cette étude entre l'alimentation et le facteur de risque de cancer.
Un mot peut-être sur cette étude, Pauline Ducrot ?
Alors, c'est une étude qui est basée sur une large population, en effet, d'individus, et donc qui montre une association entre l'aliment de produits ultra transformés. Donc peut-être qu'on peut revenir aussi sur cette notion d'aliment ultra transformé, parce que finalement, je ne sais pas si les auditeurs voient exactement à quoi ça peut correspondre, parce que maintenant, dans les rayons, on en retrouve énormément. Donc, ce n'est pas seulement tous ces plats préparés, mais c'est aussi les biscuits, les céréales du petit déjeuner. Finalement, on a l'impression parfois que c'est des produits qui ne sont pas tant transformés que ça, mais il y a beaucoup d'additifs, beaucoup de conservateurs, et c'est potentiellement ces composants qui vont avoir un impact sur le développement de ces cancers ou d'autres maladies comme faisait référence Stéphane Besançon.
Alors il est important quand même de rappeler, pour bien comprendre de quoi on parle ce matin, que selon la classification internationale NOVA, les aliments sont répartis en 4 groupes en fonction de leur transformation industrielle. Alors un mot sur ces 4 groupes, peut-être Pauline Ducrot ? Stéphane Besançon ?
Oui, alors la classification NOVA, elle est très simple. Hein. Ça part du groupe 1, qui sont les aliments non transformés ou peu transformés, qui sont obtenus directement. Un œuf, par exemple, est obtenu directement, il n'est pas transformé. Enfin, l'œuf en lui-même, quand il vient de la poule. Après, il y a les ingrédients culinaires transformés, c'est ce qui est extrait et qu'on va presser ou broyer simplement et utiliser. C'est les huiles, par exemple. Oui. Après, on passe au groupe 3, qui est des aliments transformés, mais qu'on appelle peu transformés, en fait. C'est des aliments naturels auxquels on va ajouter des épices, du sel, de l'huile. C'est ce qu'on redemande aujourd'hui de revenir aux gens, c'est-à-dire à avoir des produits bruts et à les transformer soi-même à la maison un minimum pour juste leur donner du goût et les rendre plus agréables.
Oui.
Et après, il y a la quatrième classification, enfin le quatrième groupe de Nova, c'est celui qui pose l'énorme problème, qui est les ultra transformés, c'est-à-dire c'est les produits industrialisés dans lesquels il y a à peu près tout en fait dans la composition. On a beaucoup de mal à savoir ce qu'il y a. Et alors les problèmes, on parlait tout à l'heure des colorants, des choses comme ça, mais le gros problème de ces aliments, il est même par leur composition nutritionnelle eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est des éléments qui vont être très riches en glucides, très riches en lipides,
oui.
Peu de fibres, peu de minéraux, hyper caloriques dans une majorité des cas. Donc
tout
ils sont vraiment tous qui sont anti-diététiques, entre guillemets, j'exagère un peu. Après, si on prend aussi les ailes de poulet frites, si on prend le poisson pané, les petites pommes de terre carrées, etc., là, en plus de ça, on a des aliments qui contiennent énormément d'acides gras trans.
Oui, oui.
Donc on a vraiment des produits qui, dans le même produit, on peut avoir du suracide gras trans, du surgras, du sursucre, on a tout, quoi. Et avec beaucoup de calories. Donc voilà, c'est cette catégorie-là, là, Montero, hein, le nutritionniste brésilien qui a défini ça avec l'OMS au niveau international, c'est vraiment cette quatrième catégorie qui aujourd'hui est très ciblée et qui est et ce qui change beaucoup aussi avec le temps, c'est que la proportion de ces aliments dans l'alimentation est passée de 20%, 30%, 40%. Aujourd'hui, on n'est pas loin de
60%. C'est le cas également en Afrique, Stéphane Besançon ?
Alors, en Afrique, de plus en plus. C'est-à-dire qu'en Afrique, on est en train de shifter. C'est-à-dire qu'on est en train de passer progressivement de peu d'ultra transformés à ils arrivent sur le marché, ils commencent à être de plus en plus présents.
Oui.
Donc ça, on est vraiment dans la phase où on a raté cette phase-là chez nous, c'est-à-dire qu'on aurait pu contrôler ça, on l'a pas fait, et maintenant on a les gens qui en consomment 60-70% au Royaume-Uni aujourd'hui de leur alimentation, et en Afrique, c'est vraiment maintenant qu'il faudrait agir pour contrôler l'industrie, contrôler ses produits, faire du label aussi, hein, comme le Nutrisol, des choses comme ça, maintenant, parce que c'est maintenant qu'il y a une totale émergence de ces produits.
Alors c'est vrai que souvent lors des émissions, on a parlé de l'alimentation africaine qui est trop grasse, trop riche. Alors est-ce qu'il est mieux de consommer l'alimentation traditionnelle, ce qu'on mange en Afrique, ou ces produits ultra transformés, Stéphane Besançon ?
Alors ça dépend, c'est vraiment une question, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Aujourd'hui on dit pour stopper les ultra transformés, il faut manger... les choses un peu classiques. Mais les choses classiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a quand même une part de transformation à la maison. Or, aujourd'hui, on sait, par exemple, qu'en Afrique, quelque chose qui est préparé, un riz sauce qui est préparé à la maison, qui pourrait être très bon, si on y rajoute 2 litres d'huile et si on y rajoute 10 cubes alimentaires,
oui.
Les fameux cubes, on aura un aliment qui va avoir les mêmes caractéristiques à la fin qu'un aliment ultra transformé, sans les acides gras trans, mais il sera... Donc, il faut revenir à des préparations à la maison, parce qu'on contrôle ce qu'on va mettre, ça c'est très important, parce qu'une fois qu'on a acheté un plat préparé, on ne contrôle rien, on est obligé de manger ce qui a été mis dedans. Donc revenir aux préparations à la maison, c'est très bien, mais en faisant attention de ne pas y réajouter des choses transformées par l'industrie en grande quantité, les cubes par exemple pour l'Afrique, c'est le combat de la période,
oui.
Parce que là on va avoir des plats qui vont être beaucoup trop gras, beaucoup trop salés, beaucoup trop sucrés. Donc c'est d'allier les deux, revenir à des préparations, j'allais dire un peu traditionnelles, classiques, mais en gardant du raisonnable sur comment on les prépare. C'est vraiment l'alliance des deux qui donne la solution.
Alors pour en finir avec l'étude qu'on a évoquée en début d'émission, on va écouter le témoignage de Mathilde Touvier, qui est chercheuse à l'INSERM sur l'étude dont on parle, l'étude sur les aliments ultra transformés et la corrélation entre les risques de développer un cancer. On l'écoute et on se retrouve juste après.
Nous nous sommes intéressés à la relation entre la consommation d'aliments ultra transformés et le risque de cancer dans la cohorte NutriNet Santé. Il s'agit d'une étude d'observation. Donc pour cela, nous avons suivi environ 105 000 adultes français pour lesquels nous avons mesuré les consommations alimentaires et notamment la part d'aliments ultra transformés dans leur régime alimentaire. Nous avons suivi ces personnes entre 2009 et 2017 et nous avons ainsi mesuré l'apparition de certaines maladies dans cette population. Et ce que nous avons observé plus particulièrement, c'est que pour une augmentation de 10% de la part d'alimentation ultra transformée dans le régime alimentaire, on avait une augmentation d'environ 10% du risque de cancer au global et notamment de cancer du sein. Il s'agit de la première étude à regarder ça au niveau international et il faut vraiment confirmer ces résultats dans d'autres études et surtout essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu jouer dans cette relation, dans les aliments ultra transformés, hein, qu'il s'agit de leur composition nutritionnelle qui serait moins bonne, plus riche en sucre, en acides gras saturés, en sel, moins riche en fibres. Est-ce qu'il s'agit de la présence de certains additifs alimentaires, de la présence de matériaux au contact des aliments qui seraient véhiculés par la matrice alimentaire, ou bien encore de composés qui seraient formés, néoformés, lors des process de transformation. Donc c'est ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre maintenant. Nous lançons notamment un nouveau programme de recherche dans la cohorte Nutrinet Santé pour essayer de comprendre les relations entre l'exposition habituelle aux additifs alimentaires et le risque de pathologie chronique. Et donc, nous avons notamment collecté depuis de nombreuses années, et de continuer à le faire, tous les noms et les marques des produits industriels consommés par les participants, ce qui va nous permettre de pouvoir évaluer de manière détaillée les expositions habituelles aux additifs alimentaires dans cette population.
Alors là, on parle des cas de cancer, hein, mais Stéphane Besançon vous l'a dit tout à l'heure, ces aliments ultra transformés provoquent également d'autres maladies, hein, des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, le surpoids également. Alors au téléphone, nous avons un auditeur qui nous rejoint, c'est Marcus. Bonjour Marcus, merci d'avoir patienté. Bienvenue, nous vous écoutons.
Bonjour Aïssa, bonjour les invités, bonjour les auditeurs. Comme d'habitude, ça, c'est une très bonne émission que tu fais parce que c'est informer les gens des dangers de la consommation des plats cuisinés. Bon, je pense que les invités ont dit des choses qui sont aussi vraies, mais c'est-à-dire aujourd'hui, il faudrait se poser la question. Est-ce que tout ce qui est préparé est aussi bon que bon? Donc, parce que moi, en tant qu'homme conscient, je préfère faire ma cuisine et éduquer ma femme à préparer naturellement. Alors qu'aujourd'hui, avec le système dans lequel nous vivons, c'est-à-dire, on a coupé l'homme avec la nature de sa propre nourriture. Donc, il y a quelque chose qu'il faudrait faire, c'est que l'homme se réapproprie de son histoire qui date depuis la nuit des temps parce que, et comme on dit, la nature ne trompe pas, mais aujourd'hui, avec l'évolution, on dit que le monde n'a pas de temps, c'est-à-dire d'autres ont pensé pour d'autres pour dire voilà comment vous allez vous nourrir. Et c'est de là que la plupart des plats cuisinés n'ont pas de choses qui sont aussi bonnes que, qui soient bonnes. Parce que ce sont des sucres, des produits chimiques qui sont néfastes pour la santé. D'autant plus que l'organisme intérieur d'un individu
alors,
n'évacue pas...
Marcus, on comprend bien que c'est un sujet qui vous passionne. En gros, votre propos, c'est « je déplore que les gens prennent de moins en moins de temps pour cuisiner ». Merci, on ne va pas pouvoir vous garder très longtemps, mais on a compris en fait l'essence de votre propos. Merci en tout cas de nous rejoindre. C'est vrai que Marcus, lorsqu'on parle de nutrition, est toujours très passionné. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ce témoignage, Stéphane Besançon? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre rapidement à Marcus?
Il est clair de toute façon que les aliments ultra transformés répondent à la fois à une question de goût, hein, quand même, parce qu'ils sont quand même en termes de goût très, très gras, très sucré, très salé. Donc, ça répond au goût des gens, mais ça répond aussi à une stratégie de développement de la société. C'est-à-dire quand on a, ce qu'a très bien dit Marcus, quand on a de moins en moins de temps, de moins en moins de culture aussi culinaire pour préparer, etc., c'est une solution de facilité. Et les industriels ont très très bien compris qu'ils s'engouffraient là dans une brèche qui était totalement ouverte et du coup, bah, ils répondent aussi à une nécessité à des moments de se dire, eh ben, on n'a pas beaucoup de temps, et qu'est-ce qu'on peut faire rapidement entre midi et deux le soir quand on n'a pas beaucoup de temps pour manger et pas avoir à préparer. Donc voilà, et c'est un gros problème, et effectivement, ça repart de la base, je pense, et ça repart, je pense qu'on a une collègue de Santé publique France qui pourra le dire mieux que moi, de tout ce travail qui peut être fait aussi auprès des enfants dans les écoles et tout pour redonner très tôt le goût à d'autres types d'aliments, parce que ça, c'est pas à 40 ou 50 ans qu'on va changer ça. Il faut retravailler avec les gens très, très tôt. Et ce que a dit Marcus aussi, c'est-à-dire de retravailler dans les foyers à un moment pour reprendre le temps de préparer, reprendre le temps de retourner vers des modes de vie où on prend le temps aussi sur l'alimentation, de prendre du temps pour préparer des bonnes choses et acheter des bonnes choses, parce qu'il y a les deux en fait.
C'est vrai que dans l'école de ma fille, régulièrement, ils organisent des journées nutrition où ils font des brochettes de fruits, etc. Et c'est vrai que justement, ça fait partie de l'éducation préparée avec son enfant, par exemple, Pauline Ducrot. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet ?
Bah, tout à fait. À Santé publique France, pour nous, c'est un grand enjeu de sensibiliser les enfants au plus tôt, parce qu'on sait très bien que la culture alimentaire, ça va avoir des répercussions ensuite sur le long terme, sur ce qu'ils vont préparer eux une fois qu'ils seront adultes.
Ouais.
Donc de pouvoir faire des interventions comme ça dans les écoles, c'est quelque chose en effet de très important. Et aussi de pouvoir les sensibiliser à justement connaître, retourner à la nature, comme le disait Marcus, donc à faire des jardins potagers. C'est des actions qui sont de plus en plus développées pour préparer à partir d'aliments bruts. Et aussi, un autre enjeu, c'est d'aider. En effet, on sait que les gens ont moins de temps pour cuisiner, donc il faut aussi avoir conscience de ça et trouver des solutions à apporter pour qu'ils puissent cuisiner dans le temps qu'ils ont à partir d'aliments bruts, et donc trouver des solutions rapides sans que ce soit forcément des plats préparés. Et maintenant, je pense qu'on peut le faire. Il y a des aliments surgelés, par exemple, des légumes qui sont pré-coupés, ça permet de gagner du temps et c'est quand même de bonne qualité nutritionnelle. Donc il y a des petites astuces comme ça qu'il faut réussir à faire passer. Et nous, on a un rôle là-dedans à Santé publique France.
Et par exemple, le dimanche, préparer plein de tupperwares pour la semaine.
Exactement. Cuisiner des plats traditionnels, donc en veillant, comme le disait Stéphane Besançon, à ne pas rajouter trop d'huile, trop de sucre, de cubes, etc. Le week-end, en grande quantité. On peut soit en manger toute la semaine, soit si on n'a pas envie d'en manger tous les jours, parce qu'au bout d'un moment, on peut être lassé. On peut en congeler aussi, si on a un congélateur chez soi. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça. Donc, nous, notamment sur notre site mangerbouger.fr, on donne plein de petits conseils comme ça pour essayer de gagner du temps en cuisine tout en prenant plaisir à cuisiner, parce qu'aussi c'est de la transmission, c'est un moment qu'on peut partager avec ses enfants, avec sa femme, comme le disait Marcus. Ouais. Donc faut que ça redevienne un moment sympa et pas une contrainte de cuisiner chaque soir.
Cissé est au téléphone. Bonjour Cissé, merci de nous rejoindre. On vous écoute, allez-y.
Oui, bonjour. En fait, je voulais vous poser quelques questions concernant la viande.
Allez-y.
En fait, moi, quand je mange trop de viande, c'est-à-dire j'ai des douleurs, en fait. Je me sens pas bien. Donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter et là, je me sens beaucoup mieux. Je veux savoir si je dois continuer toujours à arrêter ou je dois quand même manger. Je sais pas.
Stéphane Besançon, vous voulez répondre à Cissé ?
Alors là, vraiment, moi, là-dessus, ma théorie est souvent d'écouter son corps, c'est-à-dire après la consommation de viande, il y a toute la problématique plus macro qui est aujourd'hui clairement de réduire la consommation de viande, à la fois pour des questions de santé, mais aussi pour des... Là, je ne dis pas arrêter, je dis réduire la consommation de viande pour des questions à la fois de santé et d'environnement. Ça, j'allais dire, c'est une tendance un peu globale. Maintenant, si c'est lui-même le fait d'arrêter, il se sent mieux et son corps répond mieux, il y a des moments, il y a la théorie puis il y a la pratique. C'est-à-dire, vraiment, si un aliment rend inconfortable et que de le sortir de l'alimentation, on est mieux, on se sent bien, eh ben, il faut le laisser, le remplacer par d'autres choses. Hein. C'est-à-dire que la viande amène des protéines, donc il faut aller chercher les protéines ailleurs en variant les céréales, en variant les légumineuses, en mangeant du poisson, et ça ne pose pas vraiment de problème. Je pense qu'il faut avoir une approche très rationnelle là-dessus. Si son corps, à un moment donné, une période donnée, un aliment est pas, j'allais pas dire pas toléré, mais crée une gêne, et ben il faut le laisser temporairement ou dans le plus long terme, ça dépend. Et puis il faut voir comment le corps réagit quand il le réintroduit.
Savoir écouter son corps, si c'est un peu ce que vous dit Stéphane Besançon ce matin.
Pour le poulet, c'est ça va, mais avec poisson, ça va. Mais si c'est la viande, c'est autre chose en fait.
Alors, le poulet, c'est de la viande. Donc, ce qu'il y a
de le poulet, ça ne fait rien, en fait.
Il n'a pas de réaction lorsqu'il mange du poulet.
Voilà, quand il n'a pas de réaction. Mais quand il mange la viande de mouton, c'est que là, je ne suis pas bien, en fait.
Eh bien, ça veut dire, viande, là, il y a un problème avec la viande rouge et la viande blanche, ça passe. Donc, il faut aller vers la viande blanche. Et puis, il ne faut pas, je pense, La viande blanche est une source de protéines qui est très bien aussi, donc ça pose aucun problème.
Voilà, écoutez son corps, Cissé. Merci en tout cas pour votre appel. On vous souhaite une très bonne journée à l'écoute des programmes de la radio africaine. Alors, rappelez également qu'il faut se méfier des promesses qui figurent sur les emballages des produits alimentaires, des allégations alimentaires comme source en fibres, allégées en sucre, light, riche en calcium, etc. C'est vrai que c'est pas évident de décortiquer ces messages et ces étiquettes, Pauline.
Oui, bah, surtout qu'en fait, ces promesses, finalement, en fait, ça prend en compte certains seuils, donc source en fibres, on va être au-dessus de 15% d'une teneur en fibres, etc. Mais sans tenir compte, finalement, de la qualité globale du produit. Donc, ouais. Ça veut dire qu'un produit peut être source en fibres, mais très riche en sucre, très riche en acides gras saturés. Donc, finalement, que veulent dire ces promesses ? Donc, c'est aussi pour ça qu'a été conçu le Nutri-Score.
Alors, oui, le Nutri-Score, justement, dites-nous ce que c'est.
Donc, le Nutri-Score, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, parce qu'il y a une campagne à la télé récemment au mois de mai, et puis ça commence à apparaître dans les rayons et sur les drives. Donc, c'est un logo qui est placé en face avant du produit et finalement qui vient compléter le tableau de valeurs nutritionnelles qui est à l'arrière des paquets et qu'on a souvent du mal à décrypter, et donc qui va donner une indication sur la valeur nutritionnelle des produits au global. Donc ça se présente sous la forme d'une échelle de couleurs, donc ça va du vert foncé au orange foncé, et c'est associé à des lettres, donc du A au E, oui. Donc il y a 5 couleurs, et donc... En fait, ça nous permet de savoir est-ce que le produit est plutôt de bonne qualité nutritionnelle ou de moins bonne qualité nutritionnelle. Donc, c'est un indicateur vraiment global. Finalement, on pourrait le rapprocher de l'échelle énergétique qu'on voit sur les frigos du A au E. Ouais. Voilà, souvent, on est assez familier avec ça, donc on peut le rapprocher de ça. Et donc, en un coup d'œil, on peut savoir et comparer les produits dans un rayon. Donc pour l'instant, c'est le tout début. Il y a un arrêté qui a été signé le 31 octobre 2017, donc qui encourage la mise en place de ce logo, mais on ne peut pas le rendre obligatoire parce qu'au niveau européen, il y a une loi qui fait qu'on ne peut pas rendre obligatoire la mise en place de ce logo. Donc pour l'instant, c'est un engagement volontaire des marques. Donc aujourd'hui, il y a environ une soixantaine d'entreprises et de distributeurs, donc par exemple Auchan, etc., des magasins qui se sont engagés à poser ce logo sur leurs produits. Et donc, ils commencent à arriver en magasin. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu.
Alors, on a décidé pour cette émission de traîner un peu le micro au sein de l'équipe de la Radio Africaine. Alors, ce sont les employés de la Radio Africaine qui répondent sur leurs habitudes alimentaires. On écoute et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission.
À midi, je déjeune quand même. Après, ça dépend. Des fois, c'est sur le pouce à emporter pour gagner du temps avant de prendre le train. Des fois, j'attends d'arriver à la maison pour me faire une petite salade, pour me faire un petit sandwich. Voilà.
Au midi, oui. Je mange des trucs un peu légers, quoi, en fait. Une petite sandwich, par exemple. Voilà, ça me suffit.
Le midi, je vais dans les fast-food en général qui sont à proximité de mon lieu de travail. Et je mange en général sur mon bureau, donc en train de faire 2-3 tâches en même temps.
Oui, le soir, c'est beaucoup plus ça, parce que du coup, je fais à manger pour ma fille. Donc du coup, le soir, je cuisine. Pas des plats très élaborés, parce que manque de temps. J'achète de plus en plus de fruits et légumes que je cuisine moi-même. J'aime plus trop le surgelé, les boîtes de conserve et tout. Et donc, je fais tout moi-même.
Bah, soit mes parents, ils me font à manger. S'ils sont pas là, je me prépare un truc rapide, style des pâtes ou une pizza réchauffée. Et sinon, si vraiment personne n'est là et que j'ai vraiment la flemme de préparer à manger, bah, je me commande McDo par Uber Eats.
Le soir, en général, c'est un peu plus posé, mais après, ça dépend de mon emploi du temps, de l'heure à laquelle je rentre chez moi, et pareil pour ma copine. Après, c'est vrai qu'il m'arrive souvent de commander des pizzas, de commander encore une fois des fast-food. C'est pas très varié comme alimentation, mais ça fait un moment que je me suis habitué. C'est vrai que quand j'ai un peu plus de temps, c'est beaucoup plus agréable de manger des plats qu'on prépare. Mais malheureusement, quand entre 21h, parfois 21h30, on n'a pas forcément la force et le courage de préparer à manger.
Alors malheureusement, il nous reste juste 1 minute 40. On va essayer d'optimiser le temps. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette émission, Stéphane Besançon ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer ?
J'ai envie de dire pour terminer, il faut absolument réduire la part d'aliments ultra transformés dans l'alimentation. Ça, c'est quand même central. Revenir à ce qu'on a dit, à acheter déjà, parce qu'avant de préparer, il faut acheter des bons produits, des produits plus sains et plus naturels, et réapprendre à les préparer, à cuisiner. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les bannir complètement, les ultra-transformés, parce que l'alimentation, c'est aussi un plaisir. Donc, de temps en temps, de se faire plaisir, c'est important.
À quelle fréquence, par exemple, une fois par semaine ?
Oui, je pense qu'une fois par semaine, c'est déjà très bien. Et le dernier point que moi je soulèverais, je dirais de faire attention, c'est que la question du Nutri-Score, c'est pas qu'une question de directive européenne, c'est une énorme question de conflit d'intérêts. L'industrie a fait une pression colossale sur le gouvernement qui a plié totalement. Le député Olivier Véran a essayé de déplier un peu cette situation, mais il n'y est pas arrivé. Donc il y a la question d'une directive européenne, mais surtout, il y a la question du conflit d'intérêts et d'un argent déversé par les deux industriels colossal pour combattre le Nutri-Score. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut redire aussi beaucoup parce que autrement, ça minimise un peu le problème et le consommateur n'est pas conscient qu'il doit se mobiliser aussi lui-même pour nous aider à faire passer ce Nutri-Score.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Merci, il reste juste 20 secondes. Vous voulez peut-être dire juste un mot, Pauline, rapidement?
Compléter en effet ce que vient de dire Stéphane Besançon sur le Nutri-Score. C'est vrai qu'on a besoin justement des consommateurs pour se mobiliser et nous aider à ce que ce système puisse se déployer parce que les industriels et notamment les gros et puissants essaient de mettre en place un autre logo.
Merci beaucoup, c'est la pause.